Bonjour. Ça fait plaisir de voir cette assemblée réunie ici, qui est pleine de couleurs, qui est formée de gens d'origines diverses, d'âges différents. Et j'aimerais vraiment, je ne vais pas passer en revue les différents pays qui sont représentés ici ce matin, parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, bienvenue. D'où que vous veniez. Et ce qu'il y a, c'est que, eh bien, que l'on vienne du coton de veau, ou que l'on vienne d'Amérique du Sud, ou d'Afrique, ou du sud de la France, ou de Roumanie, eh bien, nous sommes tous des bâtons de dynamite. Amen. C'est magnifique. Le seul petit problème, c'est que le bâton de dynamite, il doit sauter. Hein. Voilà. On a chanté des chants magnifiques, on a crié, on a loué Dieu. Il y a une semaine, on a fêté la résurrection, la mort de Jésus et les victoires que Jésus a remportées à ce moment-là. Hein, la victoire sur la mort, sur le péché, sur le diable et ses anges mauvais. Tout ça, ce sont des victoires qui ont été remportées à la croix par Jésus-Christ. C'est génial. Quoi, cool. Et puis, voilà, c'est cool le dimanche matin au culte. Puis des fois, le lundi matin, c'est moins cool. Déjà dimanche soir, c'est vrai. Déjà dimanche soir. J'ai encore une oreille assez fine. Hein, c'est moins cool. Parce que ces victoires sont réelles. Elles ont été remportées. C'est vrai. C'est la vraie vérité, comme diraient les enfants. Mais voilà, tout n'est pas encore parvenu à son terme. Et ce qui fait que, eh bien, elles ne sont pas, la réalisation de ces victoires n'est pas encore là. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous sommes comme nous sommes, qu'on traîne avec nous des fardeaux, qu'on traîne des péchés qui restent là, qui sont difficiles à enlever. Luther disait, le chrétien est toujours pécheur, toujours juste et toujours pénitent. Donc voilà, nous sommes toujours justes, mais nous sommes aussi toujours pécheurs et nous sommes toujours pénitents. Nous avons besoin de revenir au Seigneur et de nous repentir. Alors je vous propose de lire un dialogue étonnant dans la Bible. Bon, je suis sûr que vous le connaissez. C'est entre un serpent et un couple. C'était il y a fort, fort, fort longtemps. Très longtemps. Pour certains, c'est un mythe. Néanmoins, c'est un texte de la Bible dans Genèse 3, au verset 1. Ouais. Je vais... Alors, est-ce que... Excusez-moi. Nous allons y arriver. Voilà, chapitre 3 de la Genèse, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, donc le serpent, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Mais vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder, est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et la suite, on la connaît, les conséquences d'avoir croqué ce fruit, eh bien, on les subit toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes toujours confrontés à cette question. Dieu a-t-il vraiment dit ? Est-ce qu'il a vraiment dit ça à Dieu ? Si il y a des personnes qui ne sont pas croyantes dans cette salle ce matin, vous avez aussi ces petites phrases qui viennent. Dieu a-t-il vraiment dit que c'est mieux d'être avec Dieu ? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Et puis nous, hein, les autres qui croyons en Dieu, tu es sûr que Dieu peut ou veut encore te pardonner, hein, après toutes les fois où tu es retombé dans ce péché, après tout ce que tu as fait? Ça fait combien de fois que tu retombes dans ce péché? Es-tu sûr que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu es sa fille, que tu es son fils? Est-ce qu'il a réellement dit ça, Dieu? Est-ce qu'il entend vraiment tes prières? Tu crois vraiment qu'il est juste, Dieu, quand on voit ce qu'on voit, quand on voit, tu vois ce qui arrive dans ta famille? Hein, ce n'est pas tout rose dans ta vie. Et puis dans le monde, quand on voit ce qui se passe dans le monde. Puis après ça, vous voulez me faire croire que Dieu est juste et que Dieu est bon? Es-tu sûr que tu peux changer? Es-tu sûr que tu peux changer? Es-tu sûr que Dieu va pourvoir à tous tes besoins? Et puis, ce n'est pas si grave de mentir sur tes revenus. Mais non, de toute façon, l'État est pourri. Alors, qu'est-ce que tu veux tout déclarer aux impôts? Et puis, est-ce que c'est si grave que ça que de coucher avec l'être aimé alors qu'on n'est pas marié? Ouah, ça, c'était bon au 15e siècle. Mais au 21e siècle, quand même, il faut arrêter avec ces histoires. Dieu a-t-il vraiment dit? Voilà la question à laquelle nous sommes confrontés. Et puis, le problème souvent avec nous, c'est qu'en fait, on n'est pas très différent de Adam et Ève. Hein. Il faut être honnête. Il y a eu quelques siècles, quelques millénaires entre eux et nous, mais on n'est pas si différent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on peut lire aussi dans la parole. On a tendance à se laisser prendre au piège de ces questions. On veut répondre au diable. Et puis, voilà, il faut reconnaître que la vie n'est pas facile. On a tous des fardeaux. On n'est pas des chrétiens hors sol comme ça. Alors c'est vrai, nous sommes des créatures nouvelles. C'est juste. Mais on a quand même un héritage, on a un passé qui est derrière nous. Dieu le pardonne, mais ça peut laisser des traces quand même dans nos vies. Et on peut se retrouver dans des difficultés avec nos familles, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos pasteurs, avec notre employeur, nos employés, etc. Ou bien alors c'est des péchés qui nous empoisonnent la vie. Des péchés qui sont là, des addictions. Et puis on n'arrive pas à s'en sortir de là. Et ça nous empoisonne. On prie, on chasse l'ennemi, on chasse le diable, on dit qu'il n'a aucun pouvoir, et puis ça ne marche pas toujours comme ça. Ce qui fait que ça nous met quand même dans une position un peu, je me dis, ça nous met dans une position un peu schizophrène. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on veut croire, on croit intellectuellement que Dieu nous a pardonné, on croit intellectuellement qu'il veut changer nos vies, qu'il veut transformer nos vies. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans ma vie de tous les jours, le lundi ou le dimanche soir, ou à un autre moment, ce n'est pas si simple, parce qu'on a ces pensées qui reviennent, et puis cette culpabilité, et puis cette honte peut-être aussi qu'elle a, parce qu'on se rend compte qu'il y a un fossé entre ce que je veux croire, entre ce que je veux dans ma vie, et puis ce que je vis réellement. Et ouais, il faut savoir que le diable est quand même beaucoup plus subtil que ce qu'on imagine. Des fois, j'ai l'impression dans nos milieux qu'on le voit un peu comme dans l'imagerie populaire avec des cornes et puis qu'il est là pour dire oh, de toute façon, on t'a démasqué, tu peux rien faire. Je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus prudent à l'égard de ça, beaucoup plus prudent, parce qu'il est subtil, parce qu'il est, il sait nous prendre là où ça nous fait mal. Et ça sera chacun quelque chose de différent en fonction de qui on est, en fonction de nos situations, en fonction de notre origine, etc. etc. Alors aussi, ce qui peut se passer, c'est que, ok, j'arrive pas à m'en sortir de tout ça, mais tant pis, c'est comme ça quand on est chrétien. Hein? On est tous. Et moi, je ne m'en sors encore pas beaucoup plus mal que les autres, hein? Quand on voit ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on entend. Mais on peut se retrouver aussi dans une forme de déni de ces situations-là, parce que c'est tellement difficile, parce que c'est tellement lourd, parce que c'est tellement compliqué à gérer dans nos vies, que on voit, on vient peut-être au culte, on vient chanter, c'est chouette, c'est cool, puis on est tout revigoré, et puis on ne va surtout pas montrer aux autres qu'on est dans la souffrance, qu'on est dans la difficulté. Est-ce que de quoi j'ai l'air si je dis à mon pasteur ou à une personne de confiance que j'ai telle ou telle addiction, que je souffre de tel ou tel problème? C'est pas très bien. Je vais pas être bien vu. Et il y a encore un autre point à prendre en compte. Je crois aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus de peine, me semble-t-il, à voir qu'il y a des problèmes dans nos vies. Finalement, est-ce que j'ai un problème dans ma vie qui ferait que je dois changer? Voilà. Dieu est amour. Il me pardonne. C'est vrai. Moi, je n'ai pas pardonné à telle ou telle personne. C'est vrai qu'il y a des péchés, il y a des choses que je fais que je ne devrais pas faire. Il y a des films que je ne devrais peut-être pas regarder, des livres que je ne devrais pas lire, des sites internet sur lesquels je ne devrais pas aller me balader. Il y a des choses qui sont là dans ma vie. Et puis, Dieu est bon. Alors à quoi bon? À quoi bon? Est-ce que j'ai vraiment besoin de changer? On est dans une culture, dans l'Église aussi, qui est dans laquelle le monde s'est infiltré de manière extrêmement fine, mais réelle. On est beaucoup dans la question du mal et du bien, elle est différente aujourd'hui. Si vous prenez il y a 50 ans, c'est le mal, voilà, on appellera bien le mal, on appellera mal le bien. C'est des choses qui sont là, qu'on voit. Et puis surtout, on veut que l'Église soit cool. Ah ouais, déjà qu'on bosse toute la semaine, pour ceux qui travaillent encore. Au moins, que l'on puisse venir le dimanche dans un endroit qui est cool, où on n'est pas harcelé, où on n'a pas des sermons moralisateurs qui nous disent qu'il faut changer, où il y a de la bonne musique, où c'est super, quoi. Parce que Dieu, il va nous comprendre, il va nous pardonner. Je crois que j'avais déjà parlé de ça, que j'ai l'impression un peu qu'on était à une époque comme à l'époque de Samson. Vous connaissez Samson? C'était un juge qui vivait il y a fort, fort longtemps, mais moins longtemps que Adam et Ève. C'était un juge, c'était une époque où il n'y avait pas de roi en Israël. C'est la période qui suit la conquête du pays d'Israël par Josué. Josué a conquis une bonne partie du pays, mais pas tout, et il est mort, comme tout homme. Et ensuite, dès qu'il y a des personnes qui ne le connaissaient plus, on a entendu parler d'un certain Josué, mais c'était vieux, c'était il y a 40-50 ans qu'il était là, il est mort maintenant. Eh bien, dès qu'on avait perdu, eh bien, le peuple s'est rebellé contre Dieu. Alors, il se rebellait. Dieu envoyait des ennemis, le peuple criait à Dieu, viens nous secourir, viens nous sauver, on n'en peut plus, on est perdu. Et Dieu envoyait une personne qui allait aider le peuple, qui allait juger le peuple, le relever, l'aider à battre ses ennemis. Et il y a un cycle comme ça pendant plusieurs années où le peuple d'Israël était tout bien. Après qu'il y avait un juge qui était là, il était remonté à bloc, il partait à la guerre avec le juge, et ils avaient la victoire. Et puis, petit à petit, les années passaient, et puis ils oubliaient Dieu, et ils retombaient dans leur péché, et Dieu envoyait de nouveau quelqu'un pour les délivrer, et ils criaient à Dieu. Il y a Gédéon parmi ces juges aussi, Déborah, Barak, et d'autres dont on connaît très peu de choses. Il y a juste un verset qui dit qu'il avait X enfants et puis X ânes. On ne sait pas beaucoup plus sur eux. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant avec le dernier juge, c'est Samson. Vous savez, celui qui avait des longs cheveux, qui était fort grâce à ses cheveux. C'est extrêmement intéressant. Il y a 3 chapitres des juges qui sont consacrés à ce personnage. Un chapitre qui est consacré à sa naissance. Et ce que l'on voit, c'est que Dieu a suscité la naissance de cet homme, non pas parce que le peuple criait à lui, pas absolument pas. On ne voit pas du tout à ce moment-là que le peuple d'Israël est en train de crier à Dieu. Ils sont pris par les Philistins et ils ne crient pas à Dieu. Dieu va susciter cet homme, ce Samson, qui aura, voilà, on connaît aussi ses démêlés avec les femmes. C'était pas simple. Il était loin d'être parfait. Mais, à aucun moment, le peuple n'a suivi. Le peuple d'Israël n'a fait que critiquer Samson et il l'a même livré aux Philistins. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus du tout de crainte de Dieu à ce moment-là. Dieu n'existait peut-être chez quelques personnes encore, mais il n'y avait plus cette notion d'être que le peuple vivait dans le péché, loin de Dieu. Et il est dit que Samson a commencé à délivrer Israël. Il n'est pas dit qu'il a délivré Israël, il ne pouvait pas. Il a commencé à le délivrer parce que le peuple ne recherchait même plus la présence de Dieu. Il était soumis aux autorités et puis il avançait avec. Alors, soyons attentifs vraiment à ne pas nous laisser anesthésié en quelque sorte, anesthésié par l'esprit du monde, qui nous dit « mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. Tu sais, tu peux pas être parfait, c'est vrai. » Mais Dieu a d'autres projets pour nous que cela. Et ça, c'est important. Il a d'autres projets pour chacune et chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, et il veut nous sortir de là, il veut nous libérer, il veut nous délivrer de cela. Alors, comment faire ? Eh bien, je vous propose de lire un autre dialogue du diable, cette fois-ci avec Jésus. J'ai pris dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Ça va ? Oui ? Vous me suivez ? Oui ? Bon, comment vous dites, hein ? Ah. Matthieu 4, j'arrive à l'avoir en face ou bien ? Je n'arrive plus à bouger là, alors excusez-moi. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'est juste après son baptême. Jésus vient d'être baptisé. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est compréhensible. Et voilà que le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta dans la ville sainte et plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. » de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde à leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous avez vu la différence ? Adam et Ève, enfin c'est surtout Ève qu'on a dans le dialogue avec le diable, eh bien elle discute avec le diable. Jésus, lui, c'est très clair, c'est « il est écrit ». Et c'est là le titre de mon message. Il a déjà commencé, vous inquiétez pas. C'est... Dieu a-t-il vraiment dit « Il est écrit » ? C'est inspiré d'un excellent livre que je vous recommande très vivement de Philippe de Courroux, qui s'appelle, dont le titre est « Libéré ». Et je vous encourage vraiment à lire ce livre parce qu'il y a des clés pour vraiment entrer dans cette libération. Donc, il est écrit. On voit que Satan, il fait des promesses à Jésus. Il lui promet monts et merveilles. Déjà mangé, vous avez faim, ça fait 40 jours que vous jeûnez, on vous propose à manger. Ben, c'est une belle tentation. Puis après, les royaumes, etc. Il y a même une fois où le diable, c'est là qu'on voit quand même que ce n'est pas n'importe qui, il cite un verset de la Bible. Dans la deuxième, il lui dit, il est écrit que... Et puis Jésus va lui dire, il est aussi écrit que... Donc, c'est vraiment une possibilité, c'est la possibilité que nous avons pour être libérés des mensonges qui nous collent à la peau, des hontes qui nous collent à la peau, c'est « il est écrit ». Vraiment que nous puissions, nous aussi, pouvoir dire, répondre au diable « il est écrit ». Que nous puissions nous baser sur la parole de Dieu, que nous puissions, ça signifie qu'on la lise, qu'on la chérisse, qu'on la médite, qu'on la mette en pratique. Si nous sommes amoureux d'une personne et que cette dernière est à l'étranger, elle nous écrit une lettre. Imaginez ça. Moi, ma femme, elle vit avec moi. Elle m'écrit des lettres de temps en temps, mais pas, ça arrive. Eh bien, est-ce que vous allez laisser cette lettre sur un tablard? Non. Vous allez la lire. Waouh! C'est génial. Oh, elle a encore écrit ça. Waouh! Puis vous la relisez une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois. Puis chaque fois, vous trouvez quelque chose de nouveau dans cette lettre. Vous découvrez l'amour de cette personne pour vous au travers de cette lettre. Waouh, c'est extraordinaire. Vous la prenez par cœur, pour finir, vous la savez par cœur, tellement vous l'avez lue et relue. Vous la connaissez par cœur, et puis quand vous allez au travail, vous la récitez dans la voiture, ou bien pendant les temps morts, etc. Eh bien, la Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu pour nous. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette Bible? On entend souvent, mais c'est compliqué la Bible, c'est difficile à lire. C'est difficile à lire. Mais c'est la lettre de Dieu pour nous. Quelle que soit notre origine, quel que soit notre degré, le degré scolaire qu'on ait suivi, cette lettre, elle est adressée à chacun, à quiconque. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des intellectuels qui ont lu, qui aiment lire. Alors c'est vrai que ça aide, mais elle est adressée à chacun d'entre nous. Alors vraiment que nous puissions la lire parce qu'elle est extrêmement importante. Alors vous allez me dire, on a le Saint-Esprit maintenant. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Ce n'est pas deux choses différentes. Et bien sûr que nous devons lire la Bible avec le Saint-Esprit. C'est clair, ce n'est pas une lettre morte, c'est une lettre vivante pour aujourd'hui. Et j'aimerais vous citer quelques versets qui nous montrent les bénédictions qui nous permettent, qui vont avec la lecture de la Bible. Dans Jacques 1, verset 25, Jacques 1, 25, « Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Et on voit que c'est la loi de la liberté de toutes les oppressions du péché qui sont sur nous. Dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Josué 1,8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Jean 8,31 Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, on voit aussi, c'est des promesses qui sont extraordinaires. Un arbre planté auprès d'une eau vive. C'est beau, qui porte son fruit en sa saison, ses feuilles qui ne se flétrissent jamais. C'est nous tout crachés, hein. C'est génial. Eh bien, voilà. Et puis, on voit aussi que aimer Dieu, qu'est-ce que c'est que aimer Dieu ? Ce n'est pas uniquement chanter le dimanche au culte, prier, s'enthousiasmer pour Dieu, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans ma parole. Et cette parole, eh bien, elle va nous rendre libres. Si nous voulons changer, alors c'est vrai que Dieu étant, nous permet de changer, c'est par Dieu que nous changeons. Mais il faut saisir aussi ces promesses que Dieu nous donne. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, qui nous imbibe si on ne fait rien du tout. Dieu nous aime trop pour ça, il nous respecte trop. Donc ça ne va pas se passer comme ça. Mais nous sommes appelés à saisir cette grâce, cet amour, et à les chercher toujours plus. Dans Jean 15, quand Jésus annonce à ses disciples l'envoi du Saint-Esprit, il dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Et plus loin, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc on voit bien que le Saint-Esprit ne remplace pas la Bible. L'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. L'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Et puis, at last but not least, un superbe verset dans Ésaïe 48, le verset 18. Non, c'est, alors je me suis j'ai mal écrit, c'est 48, 18. Pardon, c'est pas 43, 18, Ésaïe 48, 18. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. C'est beau, hein? Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. J'ai montré au début de ce message que nous pouvons vivre loin de la paix, que dans nos âmes, dans nos cœurs, ce n'est pas toujours la paix qui prédomine. Ça bouillonne parfois. Il y a plein de pensées qui se mélangent, d'émotions qui se mélangent. Et nous voulons la paix. Nous aspirons tous à la paix. Enfin, j'espère. Alors, que nous puissions vraiment nous plonger dans la parole de Dieu. Qu'on puisse la lire, la méditer, comme si c'était la lettre, une lettre de l'être aimé. Lettre de l'être. Que nous puissions vraiment nous en nourrir. Que nous puissions la lire avec l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous dirige. Qu'on puisse se mettre... Alors, c'est vrai, je reconnais que ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Mais si vous avez des difficultés, rejoignez un groupe de maison et puis que dans les groupes de maison, on lise la parole de Dieu. En groupe, c'est cool de faire ça. Lire ensemble la parole de Dieu, c'est peut-être plus motivant au début, puis c'est défiant aussi. On se dit, ouais, t'as déjà lu ces 50 premiers chapitres. Bon, il n'y a pas beaucoup de livres qui ont 50 chapitres, mais prenons Ésaïe, par exemple. Il ne reste plus que 16, c'est génial, c'est génial. Puis qu'est-ce que t'as compris? Et puis, comment tu fais dans ta vie avec ça? C'est quoi qui est facile pour toi? C'est quoi qui est difficile pour toi? Et puis qu'on puisse prier comme ça les uns pour les autres. Qu'on puisse s'encourager, se soutenir. Et puis si vous êtes complètement rongé par des problèmes, des hontes intérieures, eh bien, parlez-en aussi à des personnes de confiance. Ne restez pas avec cela, mais que vraiment nous puissions tous, eh bien, nous soutenir les uns les autres. Puis dire, ben ouais, moi, c'est vrai, j'ai un problème avec l'alcool. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble et puis après, est-ce qu'on pourrait en reparler? Chers amis, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit Saint, nous avons des victoires qui ont été acquises il y a 2000 ans à la croix. Nous avons une communauté aussi, Le chrétien n'est pas fait pour vivre seul, mais pour être en communauté. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains qui sommes faillibles, qui avons nos combats, nos luttes, nos difficultés. Alors que nous puissions vraiment utiliser vraiment tout cela, qu'on ne reste pas sur le bord du chemin, mais qu'on puisse aller à la parole de Dieu, à la source de la vie. Amen. En tout cas, je vous recommande vivement d'aller dans des groupes de maisons, parce que c'est là aussi où on peut vraiment se frotter les uns aux autres, et puis sans se figurer. Mais on peut vraiment s'exprimer, on peut dire, quand on se connaît suffisamment, on peut se dire, ben voilà, ça c'est cool. Merci parce que voilà, c'est génial de t'entendre, que tu parles de ça. Moi, je n'ai jamais réalisé ça. Voilà. Et puis dans le groupe de jeunes aussi, évidemment. C'est aussi un lieu de partage puis d'encouragement les uns pour les autres. Voilà. Prions. Seigneur, merci.